Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.
Bonjour, c'est nectar.genève.ch, une émission qui a pour but de présenter les vins genevois, de les faire mieux connaître, et ils le méritent bien, voilà. Aujourd'hui, et pour une fois, nous n'avons pas d'invité, pour une raison tout à fait simple, c'est que ils sont affairés aux vendanges. Pour tout vigneron, la vendange est un moment crucial qui est extrêmement prenant et il faut diriger les équipes, il faut nourrir le personnel, il faut réceptionner la marchandise, il faut veiller à tout ce qui se passe dans la cave, il faut presser le raisin et puis surveiller les températures. J'ai rencontré quelques vignerons ces jours pour lesquels la vendange se passe d'ailleurs extrêmement bien, mais qui ont eu des problèmes avec la chaleur puisque la canicule s'est prolongée et certains ont eu de la peine à maîtriser les températures. Ils trouvent des parades comme ils peuvent, des fois il y a des ruissellements sur cuve, et puis d'autres comme stratégie y ont opté pour des vendanges extrêmement matinales pour que le raisin soit frais. Donc vous voyez que nos vignerons sont au chevet presque 24 heures sur 24 de leurs marchandises pour nous offrir d'ici 6 mois d'excellents vins. Voilà. Donc aujourd'hui, pas d'invité, il y en aura les prochaines fois. J'ai toute une liste de ces messieurs, dames qui ont accepté avec enthousiasme de nous présenter leurs marchandises. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un tout petit peu méconnu, c'est les vins rosés. Il y a encore des personnes, peut-être, qui pensent que le vin rosé résulte du mélange du rouge et du blanc. Alors on a des fonds de tonneau, on a des fonds de cuve, on balance tout ça dans une plus grande cuve et ça donnerait du rosé. Bon, il y en a qui l'ont fait sans doute, mais ça c'est pas du vrai rosé. Donc on va vous expliquer ce que c'est le rosé. Je commence par une petite anecdote. Il y avait autrefois en bas de chez moi une cave. Et la caviste n'était peut-être pas très très experte, vous allez en juger. J'entre, je lui dis « Bonjour madame, j'aimerais une bouteille de rosé. » Elle me répond « Du rouge ou du blanc ?» Je dis « Non, pas du rouge ni du blanc, j'aimerais du rosé, ça devait être l'été. » Et elle reprend « Oui, mais du rouge ou du blanc ?»« Non, du rosé, etc. » Finalement, j'ai pris une bouteille dans son étalage et puis je lui ai dit « Je prends ça. » Alors, effectivement, pour une caviste, c'est un tout petit peu surprenant. Donc, aujourd'hui, émission Le Rosé pour les nuls. Donc, le rosé a pâti jusqu'à il y a peu de temps d'une grande défaveur. Et il y a quelque temps d'ailleurs, j'ai rencontré un vigneron qui me disait « Mais le rosé, pour moi, c'est pas du vin ». Il y a plusieurs de nos vignerons genevois qui pensent ainsi. Or, le rosé est en voie de réhabilitation. Il était peu coté, il était marginal, à la vérité, pour d'excellentes raisons. La première, et il faut le savoir, c'est que les vendanges les moins qualitatives étaient toujours affectées au rosé. Quand vous aviez une vigne qui se portait mal, dont l'état sanitaire était piteux, hop, on faisait du rosé. Et puis le rosé en question, on le buvait bien frais parce qu'il fallait en masquer les défauts. Alors ça, c'est une première raison. C'était toujours les pires vendanges qui étaient affectées au rosé. Et c'est compréhensible dans un sens. Fallait garder le vin rouge, pour le vin rouge, qui est un vin de garde, qui doit avoir des qualités de structure supérieures, il fallait garder les plus belles grappes. Donc voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, première raison de défaveur. Deuxième raison, c'est le fait qu'il n'y a pas de définition légale du vin rosé. Donc, on peut avoir un petit peu tout et n'importe quoi, c'est ce qui s'est passé. Il y a une définition légale européenne du vin, qui n'est pas la même que la définition australienne. La définition australienne, par exemple, est beaucoup moins contraignante et peut-être qu'on peut mettre un petit peu de sirop de grenadine s'il y a un petit manque aromatique. Mais en Europe, donc, c'est bel et bien du vin. Il n'y a pas de définition du vin rouge, ni du vin blanc, ni du vin rosé, tant et si bien que le rosé, ben voilà, on ne savait pas bien ce que c'était au juste. Comme je vous ai dit que le rosé résultait des pires vendanges, eh bien, il se trouve qu'il fallait quand même, du point de vue sanitaire, le conserver. Donc, on mettait des sulfites dedans. Donc, on avait mal à la tête, on était au bord de la piscine, on prenait de larges rasades de rosé, on avait un mal de tête épouvantable, on sombrait dans le sommeil, c'était plus qu'une sieste, on se réveillait avec un coup de soleil de tous les diables, et voilà, on accusait le rosé et les sulfites. Voilà, ça c'est une raison supplémentaire. Une autre raison de la désaffection du rosé, c'est qu'il était produit en Provence principalement. On disait le rosé de Provence, c'est presque un pléonasme. Or, la Provence, qui va approximativement de Marseille à Nice, s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres, donc votre rosé, vous ne pouviez pas bien savoir d'où il venait. Nous, ici à Genève, on peut avoir un rosé de Gamaret de Chouilly. Il y a le nom du propriétaire, on sait ce qu'on a. Ou un rosé de Syrah, de Lully, on sait ce qu'on a. Tandis que là-bas, ça pouvait venir de n'importe où. Donc vous aviez du rosé de Provence, du rosé du Languedoc, et vous pouvez vous attendre peut-être à une bonne marchandise, mais principalement au pire. Voilà donc les désaffections des rosés. Comme intermède pour aujourd'hui, nous avons choisi les trompes de Chouilly. Nous avons coutume de demander aux vignerons invités d'apporter un disque favori. Nous avons apporté le disque de notre tout premier invité, Daniel Suliger de Chouilly, qui est un fanatique des trompes de chasse. Vous allez entendre un morceau qui sent bon la vendange, qui sent bon l'automne et qui sent bon aussi le folklore dans le meilleur sens du terme. Les trompes de chasse.
Radio Cité Genève.
92.2.
92.2.
Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Vous êtes toujours sur Radio Cité, vous avez bien raison. Vous écoutez l'émission nectar.genève.ch et c'est Aristide qui vous entretient comme d'habitude. Nous en étions donc au rosé. Le rosé a une histoire et je la retrace en quelques mots. Vous savez que le raisin est un produit méditerranéen, moyen-oriental aussi, et tout autour de la Méditerranée, c'est-à-dire en Égypte, à Rome et dans la Grèce, on cultivait la vigne. Et le vin que l'on buvait à l'époque, on en est à peu près certain, c'était du rosé. On ne se cassait pas la tête, on cueillait le raisin, on le pressait et ça donnait un vin rosé, faiblement teinté. Et le vin rouge, avec tout ce que ça représente de travail, d'attention à la cuvaison, à la vinification, n'existait pas du tout. Alors, depuis l'Antiquité, nous faisons un saut, nous arrivons en 1600. En 1600, on boit aussi du rosé. Je vous donne juste l'exemple de Bordeaux, qui est connu donc pour être actuellement le royaume des vins rouges. À Bordeaux, en 1600, figurez-vous qu'on produisait pour 80% du vin clairet, c'est-à-dire du vin rosé. Un peu plus soutenu que notre vin rosé actuel, mais c'était du clairet pour 80%. Et ce vin était exporté vers la Belgique, vers l'Angleterre, vers la Hollande, vers les pays nordiques, etc. On en raffolait et c'était la grande mode. J'ai lu quelque part que les Belges, par exemple, buvaient par habitant 80 litres de rosé par année, ce qui représente une centaine de nos bouteilles. Donc les Belges étaient accros à cette époque au rosé, et c'était pratiquement une ivrognerie au rosé qui se pratiquait. À Paris, c'était pareil. On possède encore des registres de caves de l'époque, et dans les caves parisiennes, vous aviez 80% de vin rosé. Et idem pour toutes les régions de la France, que ce soit le Languedoc, la Loire, etc. Partout, le rosé était triomphant. Et ceci est illustré par beaucoup de tableaux célèbres. Les peintres, par exemple Vermeer, sur quelques-uns de ses tableaux figurent des coupes de vin, c'est du rosé. Regardez de Le Nain, le repas de paysan, c'est du rosé. Ou bien les tableaux de Nature morte de Chardin, le vin, c'est toujours du rosé. Et si vous avez une seconde pour faire un petit tour sur Internet, vous tapez Guido Reni Bacchus et vous verrez un espèce de bébé bien potelé qui tient une bonbonne qui équivaut à peu près à un double magnum. C'est du rosé. Ce tableau est particulièrement délicieux parce que le Bacchus en question, en même temps qu'il boit, est en train d'uriner. Alors ne vous privez pas d'un petit crochet sur Internet, je redis Guido Reni Bacchus. Alors après 1600, il y a tout d'un coup un tournant, c'est-à-dire que on dit ben voilà, le vin c'est ce qui nourrit les ouvriers, les gens qui ont des professions physiques, et il faut quelque chose de plus nourrissant que le vin rosé qui est excessivement léger. Donc on commence à s'adonner au rouge, on fait des cuvaisons plus longues, et à cette même époque, l'aristocratie, qui veut se démarquer de la classe ouvrière ou de la classe paysanne, raffole du rosé, des rosés qui ont une jolie couleur d'ailleurs. C'est par exemple la grande mode du rosé d'Anjou, que je déteste parce qu'il est doucereux, mais enfin ces princesses et autres duchesses dans leurs grandes robes à paniers dégustaient du rosé d'Anjou. Voilà. Et puis, je saute maintenant 2018, il y a une certaine renaissance du vin rosé, et je vois en ville de Genève, sur les terrasses, à la belle saison, beaucoup de très belles et jeunes femmes qui boivent du rosé, qui ont une couleur, vous savez, cette magnifique couleur de cuivre neuf, et c'est une boisson, tout d'un coup, distingué. Et celui qui a remis aussi à la mode le rosé, c'est Serge Gainsbourg, qui une fois, à la sur un plateau de télévision, je ne sais pas lequel, a bu toute une bouteille de champagne rosé. Le champagne, c'était du blanc jusque-là, pratiquement. Et voilà, ça suffit à populariser le vin rosé. Ne bougez pas, nous nous retrouvons après une courte pause.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Vous êtes toujours sur Radio Cité, vous avez bien raison. Ceux qui n'y sont pas, ben je peux rien faire pour eux. Et c'est Aristide qui poursuit avec les rosés. Alors, pour les rosés, il faut savoir qu'il y a différentes façons de le faire. Vous voyez sur les étiquettes, par exemple, une fois rosé de saignée. Qu'est-ce que c'est qu'un rosé de saignée au juste? Alors, et, grosso modo, hein, il peut y avoir toutes sortes de bidouillages, bien entendu, toutes sortes de compromis entre les méthodes, je veux dire. Mais il y a trois façons de faire le rosé. Il y a le rosé de pressurage. Il y a le rosé de macération et le rosé de saignée. Alors, en quelques mots, je vous indique de quoi il retourne. Le premier que je vais vous détailler un tout petit peu, c'est le rosé de macération. Donc, on coupe les grappes, on les met dans une grande cuve, comme ça, pêle-mêle, et on les laisse macérer un certain temps. Alors, ce qui macère, c'est déjà une sorte de bouillie, surtout dans la mesure où on a récolté des raisins bien mûrs. C'est une bouillie qui va rester telle qu'elle pendant une durée qui va déterminer l'intensité du vin. Alors, on peut laisser macérer pendant 2 heures, si on veut un vin clair, et puis si on veut un vin plus chargé, on laissera macérer peut-être 22, 24 heures, mais pas davantage. Suite de quoi on presse et on vinifie. Voilà. C'est une méthode donc qui donne des rosés assez charpentés, ayant une présence aromatique indiscutable. Voilà. Des rosés de qualité, des rosés de caractère. Deuxième méthode, c'est la méthode du pressurage. Alors là, on se casse pas la tête. Les raisins sont mûrs, c'est l'hypothèse, et on les presse tout de suite, et on les presse tout tranquillement pour que le jus prenne quand même une certaine couleur. La couleur est principalement dans les pigments de la peau et toutes sortes de richesses minérales qui se trouvent dans l'ensemble de la grappe. Et voilà, vite fait, bien fait, et on a un excellent rosé, mais il est beaucoup plus clair que le rosé de macération. Il faut savoir que c'est la méthode actuellement la plus utilisée parce que c'est extrêmement pratique. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que pour le rosé, dont l'intérêt est l'arôme, la fraîcheur, il faut des fermentations à basse température, c'est-à-dire pas plus de 18 degrés. Sans ça, c'est plus vraiment du rosé. Et puis la troisième méthode, c'est la saignée. Vous savez ce que c'est quand on saigne. Autrefois, les médecins pratiquaient la saignée. On prend les raisins, on les met dans une très grande cuve et spontanément, un certain jus s'écoule. C'est une partie minime de la récolte qui s'écoule ainsi. On soutire le jus qui représente environ 20% du volume de la cuve. Inconvénient de cette méthode, ou avantage, c'est un vin qui est extrêmement flatteur parce que la partie qui s'écoule ainsi spontanément, c'est la partie la plus sucrée. Alors certains connaisseurs vous diront, ah ça n'a pas la vivacité du rosé, certains le trouveront un peu commun, un peu alcooleux. Ce thème alcooleux est bien entendu péjoratif. Voilà. Alors ça, c'est le rosé de saignée et le reste, les 80%, me direz-vous, eh bien, c'est pour faire le vin rouge et donc c'est pour faire un vin de garde. Voilà donc les trois façons de produire du rosé et comme je l'ai dit, on peut trouver des compromis entre ces méthodes. Alors pour les cépages qui entrent dans la composition des rosés, il y a changement actuellement. Donc traditionnellement, c'est des vins rouges. Maintenant, il faut savoir qu'il y a quelques compromis. Le côte rôti qu'on prend maintenant, enfin depuis longtemps, c'est la tradition. Une part de Viognier qui est un raisin blanc. Dans les côtes de Provence, on met souvent maintenant du vin blanc qui donne d'ailleurs des délicieuses notes de pamplemousse. Des raisins blancs, c'est Lugny, Ça peut être le Vermentino, qu'on appelle en Provence le Roll. Voilà, ça c'est une chose. Et puis, pour la définition du rosé, qui n'est pas tout à fait claire, on parle du Clairet. Clairet, c'est à Bordeaux, c'est un rosé qui est assez appuyé. Et puis, on dit souvent que le Tavel, c'est le prince des rosés. Si vous interrogez un vigneron de Tavel, il dira que son vin est un vin rouge. Donc, vous voyez, 36 nuances sont possibles pour cette marchandise qui est, encore une fois, mal définie. Alors, pour le vin rosé, une chose axiomatique et définitive, c'est que le rosé n'est pas un vin de garde. Vous pouvez garder certains rosés pendant 2 ans, 3 ans, mais il faut savoir qu'ils ne vont absolument rien gagner. Leur évolution, c'est la suivante, c'est qu'après un certain temps, ils prennent des goûts de prune ou des goûts de miel, et ils s'assombrissent un peu, ils deviennent d'une couleur plus soutenue, un peu tuilée, un peu orangée. Donc, je le dis très clairement, il n'y a aucun intérêt à garder un rosé, même si, après 3 ans, le goût de prune n'est pas déplaisant. Ne bougez pas, nous nous retrouvons après une courte pause.
Radio Cité Genève.
Maybe I'ma get a little shy, 'cause everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide. All I wanna do is just hold somebody, but no one ever wants to get to know somebody. I don't even know how to explain this, I don't even think I'm gonna try. Get a little nervous. Maybe I don't go out anymore. Feeling like I really don't deserve this. Life ain't nothing like it was before. 'Cause all I wanna do is just hold somebody, but no one ever wants to get to know somebody. If you go and look under the surface, maybe I'm a little insecure.
Maybe that's okay.
Maybe that's okay. Everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide.
Vous êtes donc bien sur Radio Cité et c'est l'émission nectar.genève.ch. Nous avons choisi pour aujourd'hui de parler des vins rosés. Il n'est pas toujours facile de choisir quand on est dans un magasin sa bouteille de vin rosé pour une raison qui me fait bien sourire, c'est-à-dire que les vins rosés, plus que les blancs et les rouges, sont affectés de toutes sortes de dénominations, d'appellations qui ne sont en réalité que poésie de bas étage. Je me suis fait plaisir, j'ai arpenté des magasins, des supermarchés, et j'ai noté des noms dont sont affublés les rosés. J'en commenterai quelques-uns. Alors, c'est une petite étude sociologique que je vous présente en quelque sorte. Il y a des rosés, toute une catégorie qui évoque le sud, les vacances. Bon, c'est un vin d'été. En premier titre, rosé piscine. Bon, ça n'a rien à voir. Donc, si vous achetez une bouteille de rosé piscine, vous ne savez absolument pas ce qu'il y a dans la bouteille. Un autre titre évoquant le sud et les vacances, le grand bain. Autre titre, la paresse. Ou encore, côté sable. Et ensuite, croix du sud. N'en jetez plus, fraîcheur du sud. Un autre titre, le grand bain. Et puis là, alors là, je craque, les sardines. Donc voilà, est-ce que vous reprenez une petite goutte de sardine, chère madame, ou est-ce que je vous resserre encore un verre de princesse pompougnette, si ça vous fait plaisir, voilà. Alors, maintenant, il y a une seconde rubrique, c'est les vins qui suggèrent la femme, sa beauté, sa jeunesse, évidemment, c'est pas des vieilles dont il s'agit dans le cas présent. Oui, des jeunes, puisque le rosé est un vin qu'il faut boire jeune, on se tue à vous le dire. Alors, un titre, les amoureuses, ma confidence, ah ça c'est pas pour tout le monde, Manon, un joli prénom, ou encore As de cœur, oh, ça nous va droit au cœur ça, un autre prénom, Clara, Lou, Inès, Pretty in Pink, oh very distinguished, Jet Society, Demoiselles coiffées, je sais pas si c'est pour des bretonnes, Belle de nuit, oh là ça devient un petit peu tendancieux, romance, voilà, on n'est pas loin de la déclaration d'amour quand on verse du romance à quelqu'un. Baiser rosé, ça vous tente sûrement. Mimi de Provence, tentation, bail, je résiste à tout, sauf passion et un autre que j'aime bien, cuisse de bergère. Ça, c'est la France grivoise, ça, c'est les chansons de corps de garde, ça, c'est un sujet de conversation si vous n'avez rien à dire. Donc, je le redis, cuisse de bergère. Ça se trouve, mais je ne sais plus où. Une autre rubrique pour ces dénominations, c'est les fleurs. Là, je les égrène assez vite. Hein. Côté rose, les lavandes, lilas rose, le rosé à la rose, là, ils ont dû se casser la tête pour trouver ça, le rosé d'art. Ah, le rosé d'art, c'est pas de la bibine, c'est un rosé sublime. Naturel. Ah, ça c'est écolo, même pas trafiqué, authentique. Régence. Régence, évidemment, c'est la cour, les aristos. Depuis des siècles, ils se gardent le meilleur. Vous avez encore une rubrique, c'est l'imagerie provençale. Loup-cigalou, les embruns, mont-cigal, white, tropez. Et puis des mots dont je ne sais pas la signification, l'odalet, Castel, Capesterelle, Lestabel, etc. Ça sent bon le terroir et la région occitane. Et puis, j'ai gardé une rubrique, c'est les divers incompréhensibles. Donc, d'abord, on va passer aux divers compréhensibles. Art de vivre, ah, ça suggère l'esthétisme, le raffinement, voilà. L'exception, ah, il n'y en aura pas pour tout le monde, ça c'est confidentiel, fallait venir avant. L'amitié, l'instant, ben l'instant il est forcément précieux, unique, toute une philosophie. Voilà qu'on se tourne vers les églises, bienfait de Dieu. Ah, alors ça c'est forcément la perfection, et ben justement c'est un nectar, autrement, un vin pas comme les autres, alors qu'il doit leur ressembler furieusement. Hédonisme, ah, cultiver le raffinement. Le rosé des sources, pur comme l'eau de source, rien à voir avec l'impôt à la source. Sensation, délice, l'incrédule, par conséquent incroyablement bon. L'irrésistible, vous allez être pompon. Les idées heureuses, ben, ça vous apportera la béatitude. Les muletiers, ah, ça c'est prolo, c'est franc, c'est vigoureux. Et puis, enfin, quelques noms qui me restent mystérieuses. J'ai. Imaginez une bouteille avec un grand G et c'est tout. Bon, l'alphabet entier pourrait y passer. Bon, peut-être un personnage de roman mystérieux, Gio. Alors Gio, là, ça sent à mon avis le séducteur argentin. Hein, c'est avec un chapeau, le gars costard, etc. La résistance, à quoi, je me demande. Le pointu, ah bon. L'ovni. Alors ça, c'est un vin totalement unique. Racine carrée. Là, ça me fait pas envie. C'est, pour moi, c'est des mauvais souvenirs. Arès, bon, ça c'est l'antiquité grecque. Je suis foot. Ah, bon, ben, le mondial, ça a fait vendre. Rosée des neiges, le raisin, il devait pas être bien mûr. Et puis enfin, cheval gris. Là, ça c'est un clin d'œil à cheval blanc, le grand vin de Bordeaux, bien entendu. Si vous souhaitez, vous pouvez trouver des titres. J'ai suggéré Princesse Pampougnette, qui est de mon cru. Vous pouvez nous envoyer des titres et nous ferons un immense plaisir de les lire à l'antenne. Si vous êtes poète, ne vous gênez pas. Sans oublier les formes des bouteilles. Mais alors, la bouteille traditionnelle de certains vins rosés, elle est tout à fait détestable parce qu'on ne peut pas empiler dans la cave. Ce qui fait que si vous en achetez une douzaine, vous êtes sûr d'avoir un éboulement avec probablement un peu de casse. Vous avez désormais enrichi votre culture sur les rosés et vous pourrez en parler en connaissance de cause, bien entendu. Avec un verre en main de vin rosé Genevois, il y en a toute une gamme qui est absolument sublime, pas seulement les traditionnels rosés de Pinot et de Gamaret, mais les rosés plus aromatiques de Syrah, de Merlot, etc. Et ils soutiennent la comparaison avec les meilleurs. À bientôt!